Vous écoutez Europe 1, il est 22h. C'est l'heure du journal, Isabelle Millet.
On espère vivement que ces enquêtes vont nous permettre de tirer toutes les conclusions, d'avoir en tout cas, de faire la lumière sur les faits tels qu'ils se sont produits.
Comment se fait-il qu'un tiers des marins présents sur le porte-avions Charles de Gaulle ait été contaminé? La hiérarchie a-t-elle été négligente? Deux enquêtes sont ouvertes. Le nombre de patients hospitalisés continue à baisser dans notre pays. Même en Île-de-France, les soignants commencent à souffler un peu, même s'il est beaucoup trop tôt pour crier victoire.
Tous les efforts qui ont été faits par la population avec le confinement portent leurs fruits.
Dans ce journal, on reviendra aussi sur l'idée du professeur Delfraissy, laisser confiner les personnes âgées et fragiles plus longtemps que les autres. Anticonstitutionnel, répond le généticien Axel Kahn. On verra ce que dit la loi. Les patients qui doivent être placés en quarantaine, mais qui ne nécessitent pas une hospitalisation, confinés dans des hôtels. Solution déjà choisie par plusieurs pays étrangers. Le plafond du paiement sans contact passera à 50 euros au lieu de 30 actuellement. Info Europe 1, la mesure sera effective dès le 11 mai. Et puis on entend ce collégien qui fabrique dans sa chambre des milliers de masques pour les soignants grâce à une imprimante 3D.
C'est une sorte de serre-tête dessus, donc il y a une feuille plastique transparente de reliure A4 qui va se clipper sur le serre-tête et donc après ça fait une sorte de visière.
Un collégien très ingénieux. Demain, le mauvais temps arrive, il touchera quasiment la moitié du pays dans l'après-midi, la moitié ouest. Ce sera un peu mieux dans l'est avec encore du soleil. Ne manquez pas en tout cas les prévisions complètes d'Anissa Haddadi, ce sera à la fin de ce journal. La Bourse de Paris a terminé quasiment stable, moins 0,08% à 4350 points. Claire Lemaître de boursier.com nous dira d'ici 20 minutes environ comment s'est passée cette journée sur les places financières. Et puis comme chaque soir à 22h20, votre rendez-vous avec l'interview éco d'Emmanuel Duteil. Emmanuel reçoit ce soir Florence Berthelot. Elle est la déléguée générale de la Fédération nationale des transporteurs routiers, les routiers qui continuent à travailler bien sûr pour permettre notamment à nos supermarchés d'être ravitaillés.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Que s'est-il passé à bord du porte-avions Charles de Gaulle? Plus d'un tiers des 1700 marins contaminés et peut-être même davantage puisqu'on attend les résultats pour les 30% restants. La hiérarchie a-t-elle été débordée? Le bâtiment aurait-il dû rentrer plus tôt au port? C'est ce qu'affirme en tout cas l'un des marins sous couvert d'anonymat. Ce qui est sûr, Hélène Terzian, c'est que les deux enquêtes devront faire toute la lumière.
Effectivement, ce marin sous couvert d'anonymat a des mots très forts. Il estime que l'armée a joué avec la santé et la vie des membres d'équipage. Ce militaire, qui s'est exprimé dans les médias locaux, assure que le commandant du porte-avions aurait proposé d'interrompre la mission du navire français à Brest lors de sa dernière escale. C'était entre le 13 et 16 mars. Là-bas, quelques centaines de militaires ont pu descendre du bateau et une relève d'une cinquantaine de personnes est montée à bord. À cette époque, explique ce marin anonyme, certains membres d'équipage présentaient déjà des symptômes du virus et la proposition d'interrompre la mission aurait été refusée par le ministère des Armées. Christine Rib, porte-parole de la préfecture maritime de Méditerranée, rappelle en tout cas que tout est fait aujourd'hui pour élucider le mystère autour de cette contamination.
Alors on veut tous savoir et nous les premiers, c'est pour ça qu'il y a deux enquêtes qui ont été lancées, une enquête épidémiologique qui est dirigée par le service de santé des armées et une enquête de commandement qui a été demandée par le chef d'état-major de la marine. Et on espère vivement que ces enquêtes vont nous permettre de tirer toutes les conclusions, d'avoir en tout cas de faire la lumière sur les faits tels qu'ils se sont produits.
Ce soir sur notre antenne, le porte-parole de la Marine nationale, Éric Laveau, a précisé que le porte-avions est un bâtiment de combat de guerre. L'application des gestes barrières qui étaient mis en place sur le navire, comme partout en France, n'est donc pas évidente, dit-il, avant d'affirmer que le commandant a pris toutes ses dispositions pour préserver la santé de son équipage.
Les précisions d'Hélène Terzian pour Europe 1. Le nombre de patients hospitalisés en France continue à baisser, c'est ce qu'a dit ce soir le directeur général de la Santé. Il y a toujours plus de 6000 malades graves en réanimation. Bien sûr, il est un peu trop tôt pour crier victoire, mais même en Île-de-France, région particulièrement touchée, on le sait, les soignants retrouvent l'optimisme. 3% de personnes en moins en réanimation. Pour le professeur Bertrand Godot de la PHP, cela montre que les efforts payent.
Dans le secteur de médecine, la décélération, elle est extrêmement nette. Ce qui veut dire que tous les efforts qui ont été faits par la population avec le confinement portent leurs fruits. Et donc vraiment, c'est un message positif dans la mesure où je pense que bien évidemment, il faut continuer le confinement jusqu'à la mi-mai, comme ça nous a été expliqué par le président de la République. Mais les professionnels de santé, les résultats du confinement, ils sont palpables, ce qui n'est pas forcément évident pour quelqu'un qui est confiné à son domicile et qui trouve le temps long.
Le professeur Bertrand Godeau de la PHP, joint pour Europe 1 par Virginie Salmen. Après la morgue temporaire de Rungis, un nouveau centre pour recevoir les morts du coronavirus ouvrira demain en région parisienne, à Vissoux, dans l'Essonne. La région des Hauts-de-France a commandé 6 millions de masques en tissu qui seront mis à disposition gratuitement des habitants qui le souhaitent à la sortie du confinement. Des masques lavables, des équipements validés par les autorités sanitaires. C'est une annonce de Xavier Bertrand, le président de cette région, qui, notez-le, sera dimanche matin l'invité du Grand Rendez-vous. Vous, Europe 1, les échos CNews. 14 kilos de cocaïne cachés au milieu de masques de protection contre le Covid-19 ont été saisis à l'entrée du tunnel sous la Manche. Valeur estimée 1 million d'euros. La drogue se trouvait dans une camionnette immatriculée en Pologne. Près de 12 600 000 contrôles de respect du confinement ont déjà été réalisés en France depuis le début de sa mise en place et plus de 762 000 verbalisations dressées. Par ailleurs, 1733 personnes ont été placées en garde à vue pour non-respect des règles de confinement à 3 reprises. C'est une question très sensible, hein, qui fait d'ailleurs débat. Faudra-t-il maintenir les plus âgés, les plus à risque, confinés au-delà du 11 mai? C'est ce que recommande le professeur Delfraissy, qui conseille le gouvernement, et que vous avez pu entendre hier dans ce même journal. Selon lui, 18 millions de personnes devraient rester à la maison, en particulier les plus de 70 ans. Et cela déclenche évidemment beaucoup de réactions. Écoutez notamment ce coup de gueule d'un autre grand médecin, le généticien Axel Kahn. C'était sur Europe 1 à la mi-journée.
Si jamais cela devait aboutir à une mesure administrative faisant que ces personnes au-delà de 65-70 ans, au-delà d'un certain poids, au-delà d'une certaine capacité respiratoire, au-delà d'un certain nombre de mois de grossesse, etc., etc., avaient une amende si elles sortaient de chez elles, ça serait totalement pas possible. C'est anticonstitutionnel, c'est-à-dire que simplement on ne le peut pas. Quand on confine tout le monde, il n'y a pas de discrimination. Mais si on se mettait à discriminer les personnes fragiles, la Constitution française, l'esprit de la loi française est d'aider, d'accompagner les personnes fragiles, pas de les discriminer.
Anticonstitutionnel, dit le généticien Axel Kahn, qui était l'invité d'Europe Midi avec Elisabeth Assayag et Pierre de Villeneuve. Alors que dit le droit? Pourrait-on vraiment prendre une telle mesure visant les personnes âgées, Salomé Legrand?
Eh bien, en temps normal, quand c'est le droit constitutionnel classique qui s'applique, ça paraît impossible. Ce serait effectivement une atteinte grave à la liberté d'aller et venir et une discrimination. Mais nous ne sommes pas en temps normal, nous sommes sous un régime juridique d'exception, l'état d'urgence sanitaire, qui permet au président et au gouvernement d'édicter des mesures exceptionnelles. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 2 conditions pour limiter une liberté fondamentale. Il faut que les atteintes qui y sont portées soient à la fois nécessaire et proportionné à l'objectif poursuivi. Et c'est le juge administratif qui arbitre. Concrètement, pour contester une telle décision, il faudrait prouver que ce confinement rallongé pour les personnes âgées n'est pas nécessaire pour préserver leur santé. D'après nos informations, des associations étudient déjà la possibilité d'un recours si la mesure était prise. Mais les juristes que j'ai pu consulter sont réservés sur ces chances d'aboutir. Cela voudrait dire que le juge administratif va à l'encontre d'un gouvernement dont la décision est censée être éclairée par de nombreux experts. Jusqu'à présent, ce n'est pas ce qu'on observe de la part du Conseil d'État.
Les précisions importantes de Salomé Legrand du service police-justice d'Europe 1 et cet gouvernement, hein, qu'il reviendra bien sûr de trancher sur cette question sensible.
Europe 1, le journal de la nuit. Isabelle Millet.
Il est 22h08, merci d'écouter Europe 1, c'est la suite de votre journal. Et c'est une autre nouveauté de ce confinement. Pour faciliter la mise en quarantaine des malades, des chambres d'hôtel vont leur être proposées. Dès ce soir d'ailleurs, le groupe Accor a mis à disposition 300 de ces établissements. Alors Jean-Jacques Héry, qui seront ces patients hébergés?
Eh bien, il y a 2 types de profils, hein. Soit des patients qui sortent de l'hôpital et qui sont encore contagieux, soit des personnes contagieuses mais asymptomatiques ou présentant des symptômes ne nécessitant pas une hospitalisation. Les placer à l'hôtel, c'est un changement de taille, car pour l'instant, la règle, c'était de rentrer chez soi. Le médecin dit à son patient « Confinez-vous et isolez-vous dans une pièce. Pendant 14 jours, vous devrez y vivre seul, y manger seul, y dormir seul ». Ça, c'est la théorie, hein, car en réalité, appliquer les gestes barrières et respecter la distanciation sociale à la maison s'avère souvent très compliqué. C'est pour cela que le professeur Yves Buisson, responsable de la cellule de veille Covid-19 à l'Académie de médecine, voudrait plutôt que l'on oriente les patients vers les hôtels.
De ce fait, lorsque quelqu'un contracte le Covid-19, eh bien, dans la plupart du temps, il le transmet à tous les membres de sa famille qui vivent sous le même toit. Donc c'est pour empêcher cette transmission qu'a été proposée la solution d'ouvrir des chambres d'hôtel dans lesquelles les patients resteront fermés pendant toute la durée de leur maladie et ne sortiront que lorsqu'ils ne sont plus porteurs du virus.
Une solution déjà choisie par plusieurs pays étrangers, dont la Corée du Sud, l'Espagne ou encore l'Italie, avec des résultats jugés positifs.
Les précisions de Jean-Jacques Herry. Une annonce importante ce soir du ministre de l'économie Bruno Le Maire. Le gouvernement a demandé aux grandes foncières, c'est-à-dire aux grands propriétaires de locaux commerciaux, d'annuler 3 mois de loyer pour les très petites entreprises qui ont dû cesser leur activité. C'est un geste qui était très attendu. Une confirmation également dans l'actualité, et c'est une information Europe 1. Le paiement sans contact avec votre carte de crédit sera autorisé jusqu'à 50 euros à partir du 11 mai. Et là aussi, c'était très attendu. Emmanuel Dutheil.
Oui, hein, avec le coronavirus, certains sont réticents à utiliser de la monnaie touchée par tout le monde. C'est peut-être votre cas. Du coup, peut-être comme de plus en plus de monde, vous utilisez le paiement sans contact, y compris pour de petits achats. Ces paiements explosent, notamment du côté des boulangeries, comme nous le confirme Dominique Enrac, le président de la Fédération de la boulangerie.
On a vraiment ouvert en disant, même quelqu'un qui vient avec une demi-baguette et qui n'a que la carte bleue pour payer, eh bien, on prend les encaissements puisqu'il n'est pas question de laisser quelqu'un sur le bord de la route parce qu'il n'a pas 50 centimes en monnaie.
Et l'autre raison, c'est que l'on va de moins en moins faire nos courses et donc on fait de plus gros pleins. Et pour cela, le plafond de 30 euros était devenu trop juste. Maintenant que la décision est prise, les banques ont besoin de quelques jours pour faire les changements techniques. Vous n'aurez rien à faire. Tout sera réalisé à distance. Et donc, à partir du 11 mai, date du début progressif du déconfinement, le plafond du paiement sans contact sera relevé parce que les banques en sont persuadées. Ces nouvelles habitudes ne sont pas prêtes de changer.
Emmanuel Dutheil, chef du service économie d'Europe 1. Un geste pour les usagers des transports en commun d'Île-de-France qui ne peuvent plus les utiliser depuis le début du confinement. Le remboursement de leur titre de transport, leur passe Navigo, qui concernait dans un premier temps uniquement le mois d'avril, eh bien ce remboursement est étendu jusqu'au 10 mai. Le Royaume-Uni annonce ce soir une poursuite du confinement au moins pour 3 semaines. Le Royaume-Uni qui avertit la Chine qu'elle devrait répondre après la crise à des questions difficiles sur la propagation du nouveau coronavirus. Le ministre des Affaires étrangères estime que la coopération avec Pékin ne pourrait pas continuer comme si de rien n'était. Et Emmanuel Macron lui-même estime que des choses se sont passées que l'on ne sait pas. Ne soyons pas naïfs au point de dire que la Chine a été meilleure que nous dans sa gestion du coronavirus, dit le président français dans un entretien ce soir au Financial Times. 22 millions d'Américains ont perdu leur emploi ces 4 dernières semaines. Conséquences économiques très très lourdes aux États-Unis, c'est même du jamais vu. Il faudra probablement 1 ou 2 ans pour que l'économie américaine retrouve son plein potentiel, c'est ce que dit ce soir le président de la Fed de New York, alors que Donald Trump doit présenter dans quelques instants son plan pour faire repartir justement l'économie américaine. Au Brésil, le président Bolsonaro limoge ce soir son ministre de la Santé avec qui il avait de profonds désaccords sur la gestion de la lutte contre le coronavirus. La Suisse va elle organiser un déconfinement lent et progressif à partir du 27 avril, tandis qu'en Grèce, des milliers de policiers sont mobilisés en vue du week-end de la Pâque orthodoxe pour éviter que la population ne parte à la campagne, comme le veut la tradition. Jusqu'à présent, la Grèce ne compte que 150 morts, entre guillemets, du coronavirus. Le président russe, Vladimir Poutine, s'est lui résolu à reporter la parade militaire annuelle du 9 mai, une parade qui célèbre traditionnellement la victoire sur l'Allemagne nazie. Et ce report est dû, bien sûr, là aussi, à la pandémie. La disparition de l'écrivain chilien Luis Sepúlveda, mort du Covid-19 en Espagne. Il avait 70 ans. Luis Sepúlveda, forcé à l'exil sous la dictature de Pinochet. Il était notamment l'auteur du best-seller Le Vieux qui lisait des romans d'amour. Très beau livre. Et puis, autre victime du coronavirus, le saxophoniste Lee Konitz, à 92 ans. Il avait enregistré avec les plus grandes jazzmen, notamment avec Miles Davis. Et puis, on avait envie, très envie même, de vous présenter ce collégien de 14 ans qui se met au service du personnel soignant. Il est en quelque sorte, lui aussi, un héros. Le jeune Roméo, qui habite à Paris et qui a une passion pour les imprimantes 3D. Figurez-vous que depuis le début du confinement, il a transformé sa chambre en sorte d'usine à masques. Sophie Echen, il a déjà fabriqué des centaines de visières pour les soignants.
Ce bruit que vous entendez, c'est la mini-usine actuellement installée dans la chambre de Roméo. Il est en troisième et chez lui, ce n'est pas une, mais 5 imprimantes 3D qui tournent de 10h à 22h pour fabriquer des masques de protection.
C'est une sorte de serre-tête dessus, donc il y a une feuille plastique transparente de reliure A4 qui va se clipper sur le serre-tête et donc après ça fait une sorte de visière.
Ce jeune passionné de nouvelles technologies en a déjà fabriqué 400 pour les personnels soignants.
C'est léger, confortable et c'est beaucoup mieux que leurs lunettes qui fait de la buée et ça protège des potions, des projections.
Du haut de ses 14 ans, Roméo est donc à la tête d'une véritable chaîne de production sous les yeux admiratifs de sa mère Julie qui ne s'attendait pas à un tel résultat quand il lui a demandé sa première machine il y a 3 ans.
Clairement, la première réaction que j'ai eue c'est qu'est-ce que tu vas en faire de ton imprimante 3D ? Qu'est-ce que ça peut apporter d'avoir ce type de machine dans un appartement ? Évidemment, depuis 15 jours, elle tourne 10-12 heures par jour.
Et en tout cas, les soignants de l'hôpital à côté de chez eux sont ravis. Ça nous sert tous les jours, m'a dit une infirmière épatée par l'efficacité de cet adolescent.
Eh bien, un grand bravo à Roméo et un grand merci à Sophie Echen de nous l'avoir présenté. Un mot encore pour vous dire qu'en foot, rideau sur les compétitions amateurs, toutes sont terminées, ça y est, c'est officiel. Annulation également du Tour de France à la voile et puis le festival Off d'Avignon également est annulé 3 jours après le festival officiel. La météo, on voit ça tout de suite avec vous Anissa Haddadi et pour demain Anissa, le mauvais temps se généralise.
Oui, effectivement Isabelle, demain matin, d'abord le temps est couvert avec seulement sur la Normandie et la Bretagne des averses et puis dans le sud, sur le golfe du Lion et la Nouvelle-Aquitaine, des nuages assez épais. Ailleurs, la matinée est dans l'ensemble ensoleillée. C'est dans l'après-midi que le temps devient agité sur une plus grande partie de la France, des Hauts-de-France jusqu'à la Bretagne, de la région parisienne à la Gironde, du Massif central jusqu'aux Pyrénées. Donc vous l'avez compris, hein, sur une grande moitié ouest du pays, le ciel est très couvert avec beaucoup d'averses et surtout des coups de tonnerre. On aura pas mal d'orages hein, demain après-midi. Sur la moitié est, là, le soleil est voilé, mais le temps reste sec. Les températures, elles sont bien plus douces sous les nuages, avec 5 degrés demain matin à Nancy et Metz, 7 à Marseille et Strasbourg, 10 pour Nice, 13 à La Rochelle et Paris et 16 à Biarritz. Et puis dans l'après-midi, les maximales aussi sont en hausse avec 18 à 23 degrés dans le nord-ouest et le bord de la Méditerranée, 23 à 26 par tout ailleurs et jusqu'à 27 degrés demain après-midi en Alsace.
Attention aux orages donc demain. La météo signée Anissa Haddadi.
Europe 1.
Et dans un instant, vous saurez tout sur la bourse avec Claire Lemaître de boursier.com, juste avant l'invité d'Emmanuel Duteil qui reçoit ce soir la déléguée générale de la Fédération nationale des transporteurs routiers. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1.
22h17, merci d'avoir choisi Europe 1 pour vous informer. Et vous le savez, tous les soirs à cette heure-ci, on s'intéresse à la bourse. Et c'est avec vous, Claire Lemaître de boursier.com. Bonsoir Claire.
Bonsoir Isabelle.
Avec encore une séance hésitante hein, pour Wall Street, alors que le chômage, on en parlait tout à l'heure hein, dans le journal, le chômage grimpe terriblement aux États-Unis avec la crise sanitaire.
Oui, c'est finalement du vert. Petite hausse de 0,14% pour le Dow Jones à 23 537 points. C'est encore mieux pour le Nasdaq qui gagne 1,66%, 8 532 points. Wall Street résiste donc malgré un nouveau bond du nombre de chômeurs la semaine dernière à cause du coronavirus. Au total, près de 22 millions d'Américains ont perdu leur emploi aux États-Unis depuis le début du confinement. C'est historique. Les marchés comptent donc beaucoup sur la feuille de route de Donald Trump pour faire redémarrer l'économie. Le président américain doit parler ce soir. Parmi les plus fortes baisses du jour, on a Boeing qui plonge encore de 8%. La chute se poursuit pour l'avionneur. Et puis, il y a des valeurs qui profitent de la crise et du confinement. Amazon est au plus haut historique avec un gain de 4,5% pour le géant du e-commerce. Netflix aussi bat un record en hausse de 2,8% ce soir. Netflix qui profite du fait eh bien, que tout le monde soit coincé à la maison pour regarder des vidéos. Le pétrole recule, le WTI perd encore 1% sous les 20 dollars. Il est au plus bas depuis 2002, le pétrole, et puis l'euro 7,06%, 1,0841.
Et à Paris, Claire, le CAC 40 n'a pas réussi à rebondir hein, après sa lourde chute d'hier.
Oui, le marché parisien pénalisé lui aussi par les mauvaises nouvelles pour l'économie américaine. Le CAC 40 était en hausse ce matin. Il perd finalement un petit 0,1%, 4350 points. Séance difficile pour EDF. L'énergéticien a abaissé sa prévision de production nucléaire pour cette année. Il évoque sans surprise la chute de la consommation d'électricité avec la crise sanitaire. L'action lâche 5,8%. C'est du rouge aussi pour ADP, Aéroport de Paris. Le titre perd 4,8%. Le trafic a plongé de près de 30% au mois de mars dans ces aéroports, alors que les avions sont cloués au sol.
Évidemment. Et les valeurs liées à la technologie, elles, tirent leur épingle du jeu.
Oui, alors ce sont des valeurs qui ont beaucoup souffert hein, depuis le début de la crise, mais elles reprennent des couleurs ce soir. ST Microelectronics s'adjuge 1%, plus 2,9% pour Capgemini. Dassault Systèmes grimpe même de près de 6%. Et puis quatrième séance de hausse pour le laboratoire Sanofi, très engagé dans la recherche contre le Covid-19. Il planche notamment sur un vaccin et Sanofi monte de 4,2% ce soir. Les marchés européens ont terminé dans le désordre avec un gain de 0,5% pour Londres et de 0,2% pour Francfort. Milan gagne 0,3%, mais Madrid perd 0,3% et Milan perd plus de 1% et moins 0,1% pour le CAC 40 à Paris. Il termine à 4350 points.
Merci beaucoup pour ce tour d'horizon toujours très complet. Claire Lemaître de boursier.com. Et il est temps de retrouver l'invité Éco. Emmanuel Dutheil, vous recevez ce soir la déléguée générale de la Fédération nationale des transporteurs routiers.
Bonsoir Florence Berthelot.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes la directrice générale de la Fédération nationale des transporteurs routiers. Vous êtes quasiment les seuls que l'on voit aujourd'hui sur les routes de France, les transporteurs routiers. Ma première question va être toute bête. Comment ça se passe dans cette période si inédite?
Alors, la situation du transport routier de marchandises est en fait assez paradoxale, parce qu'effectivement, vous voyez des camions qui tournent. Ce sont ceux qui travaillent principalement avec toute la distribution, la chaîne alimentaire, pour distribuer, bien entendu, les biens de première nécessité dans les magasins ou qui sont restés ouverts. Et vous avez une autre partie de l'activité qui est en fait la plus importante, qui, elle, est en arrêt partiel, voire en arrêt total, parce que des pans entiers de l'activité ont été fermés et que nous faisons donc du B2B et que cette activité-là est ralentie, voire arrêtée.
On peut avoir une estimation, c'est quoi du coup? C'est 20% de votre secteur qui est aujourd'hui en fonctionnement? Quelle est la proportion?
Oui, c'est ça. C'est 20% du secteur à peu près qui est en fonctionnement. On va dire qu'il y a plus de 25 à 30% des entreprises totalement arrêtées et les autres qui sont en activité extrêmement ralentie.
Aujourd'hui, quand vous entendez que Amazon décide de fermer ses sites pendant 5 jours au minimum, quoique sur l'antenne d'Europe 1, le patron d'Amazon ce matin a laissé entendre que ça pourrait être plus que 5 jours, c'est un nouveau coup dur parce que ça faisait partie des choses que vous pouviez être amené à transporter?
Oui, évidemment. Maintenant, le cas d'Amazon semble un cas assez particulier sur lequel nous avons finalement assez peu de détails. On sait qu'il y a une décision de justice, on sait qu'il y a un appel. Nous verrons bien l'évolution dans les jours prochains. Mais bien entendu, on transportait pour Amazon. C'est un transport qui se fera en moins.
Mais ça vous inquiète pas plus que ça, ou ça vient quand même s'ajouter à une situation qui est tellement compliquée qu'il ne faut pas qu'on en rajoute de trop?
Nous prenons acte d'une décision de justice, si vous voulez. Donc à partir de là, on n'a pas trop de commentaires à faire. On s'adaptera. Le transport routier a pour caractéristique de toujours s'adapter à toutes les situations. Et dans les entreprises qui sont arrêtées aujourd'hui, on met en place, ce qui n'arrivait jamais, des mesures de chômage partiel. Et nous trouvons dans la situation de beaucoup de secteurs.
Alors, quand vous dites que vous êtes un secteur qui sait s'adapter, vous avez dû, là aussi, en un temps record, vous adapter pour mettre en place ce qu'on appelle maintenant les fameux gestes barrières. Ça change totalement le métier d'un transporteur routier?
Alors, ça change, oui, bien entendu, puisqu'on est face à une situation totalement inédite. Mais il faut savoir que l'ensemble des organisations patronales du transport ont conclu, un accord avec toutes les organisations syndicales pour élaborer un guide de bonnes pratiques pour limiter la propagation du virus en entreprise de transport et lors des opérations de chargement-déchargement. Donc effectivement, qu'on se retrouve avec tous les gestes barrières, avec effectivement la nécessité de se laver les mains régulièrement, d'avoir du gel hydroalcoolique, si on n'en a pas parce qu'on a eu des problèmes d'approvisionnement, une réserve d'eau dans la cabine du conducteur avec du savon et des serviettes jetables et des procédures en entreprise pour que les salariés puissent travailler en toute sécurité.
Vous aviez dit que toutes ces nouvelles procédures renforçaient les coûts. Certains avaient cité 10 à 15% de plus de coûts pour aujourd'hui le transport. Ça a été répercuté aux clients. Ça va rester comme ça, d'après vous ?
Écoutez, de toute façon, on a des surcoûts en général. Il y a effectivement tout ce qui concerne les procédures et les produits pour assurer la santé et la sécurité des salariés, ce qui est bien légitime. On a aussi d'autres surcoûts, parce que pour les entreprises qui travaillent, il y a quand même un déséquilibre des flux logistiques. Un camion part à plein, mais souvent revient à vide, puisqu'il y a d'autres secteurs de l'économie qui ont fermé. Nos clients ont aussi demandé à ce qu'on circule le dimanche, qu'on déplafonne, je dirais, les limites de temps de conduite de nos conducteurs. Donc tout ça aussi, ce sont des heures supplémentaires qui sont majorées à plus 25 ou 50%. Et donc effectivement, il y a une augmentation des coûts. Alors cette augmentation des coûts, elle doit être répercutée. Parfois, il n'y a pas beaucoup de compréhension de la part des clients. Mais le but n'est pas, je dirais, de faire des profits. Le but, c'est juste de répercuter le surcoût légitime que nous subissons.
Quand vous dites parfois il n'y a pas beaucoup de compréhension, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que des clients qui disent « je ne paierai pas plus cher ?»«
Je ne paierai pas plus cher ». Ça allait plus loin. On a même eu parfois des remarques comme quoi on tentait de tirer avantage de la situation, ce qui est parfaitement inexact. Aujourd'hui, une entreprise qui circule ne gagne pas d'argent. Elle roule principalement à perte à cause de ses retours à vide et ses surcoûts salariaux et aussi en termes d'équipement, de sécurité.
On avait entendu, hein, il y a de ça quelques jours, la possibilité de la part de certains routiers d'exercer leur droit de retrait dans cette période si compliquée. J'ai l'impression que ça va mieux aujourd'hui. Est-ce que c'est le cas, Florence Berthelot ?
Ces droits de retrait ont été finalement assez peu suivis dans les entreprises de transport et logistique. Et c'était tout l'objet aussi d'avoir ces négociations sociales, ces discussions sociales qui se font de manière inédite, hein, beaucoup par téléphone, par visioconférence, pour élaborer un guide de bonne pratique de façon à ce que l'on ait des recommandations qui viennent de l'ensemble de la branche aux entreprises et aux salariés pour justement assurer leur santé, leur sécurité.
Ce sera ma dernière question. Pour le monde d'après, celui quand on va commencer à pouvoir revivre à peu près normalement, qu'est-ce qui va changer dans votre métier ? Est-ce que, je sais pas, on va continuer sur le très très long terme à imaginer ces gestes barrières ? Qu'est-ce qui va changer dans le métier du transport ?
Je pense que ces gestes barrières vont rester assez longtemps dans les entreprises, parce que je dirais que nous sommes, comme l'ensemble des opérateurs économiques et de la population, très attentifs au progrès médical dans ce qui concerne, bien entendu, le traitement, les vaccins, etc. Donc, tant qu'on n'y verra pas plus clair, ces gestes barrières s'appliqueront. Nous, notre inquiétude, c'est de pouvoir avoir des entreprises qui redémarrent après la crise, parce qu'elles sont en situation de grande tension financière et de grande tension de trésorerie, malgré les mesures prises par le gouvernement, et donc d'avoir toujours une offre de transport adapté.
Eh bien, merci beaucoup en tout cas à Florence Berthelot, la directrice générale de la Fédération nationale des transporteurs routiers, d'avoir été avec nous ce soir sur Europe 1. On se retrouve demain, 22h20.
Merci à vous, effectivement. À demain, Emmanuel Duteil.
C'était l'invité éco avec la Caisse d'épargne, mobilisée pour être utile aux entrepreneurs et à l'économie. Caisse d'épargne, vous être utile.
Et dans un instant, on jette un œil sur les unes de vos quotidiens. Quels sont les sujets que nos confrères de la presse écrite ont choisi de mettre en avant ? A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1.
Voici donc ce que vous découvrirez demain matin à la une de vos quotidiens. Hôpital de Mulhouse, le récit de la bataille. Le journal La Croix a recueilli le témoignage des soignants du premier hôpital qui a affronté la vague de coronavirus. Ces semaines où tout a basculé, où il a fallu se battre contre la maladie et préserver l'humanité. Alors que la situation commence tout juste à se stabiliser, médecins et soignants racontent ces 6 semaines d'une tourmente inédite. Franchement, je ne pensais pas que notre hôpital serait capable de réagir comme il l'a fait, dit notamment le chef du service de médecine interne de l'hôpital de Mulhouse. Donc, le risque d'une révolte des aînés et des seniors, écrit Laurent Baudin dans le journal L'Alsace. De nombreux Français âgés de plus de 65 ou 70 ans n'apprécient pas du tout la petite musique diffusée par l'exécutif sur l'air d'une levée du confinement qui exclurait les personnes les plus âgées. La révolte gronde même sur les réseaux sociaux où les retraités assument leur statut comme leur âge et voient dans une possible restriction de sortie une intolérable discrimination. Car la retraite ne signifie pas l'inactivité. Évidemment, le virus est beaucoup plus dangereux quand il atteint des personnes de plus de 65 ans. Cela mérite-t-il pour autant de les montrer du doigt, d'autoriser une partie du pays à reprendre une vie quasi normale et de punir ainsi un quart des Français ? L'exécutif va devoir se montrer imaginatif pour restaurer une sécurité sanitaire sans pour autant mettre au banc de la société 18 millions de personnes qui ne le méritent évidemment pas, mais dont l'isolement pourrait aussi être un état aggravant de la santé. Politiquement, écrit Laurent Baudin dans le journal Alsace, donc, le coup est risqué. La photo du patron d'Amazon est à la une de Libération qui titre Jeff Bezos, l'avide du Covid. À l'arrêt en France, vous le savez, le géant de la livraison tourne à plein régime dans le monde à la faveur du confinement, sans beaucoup d'égards pour la santé de ses salariés, mais pour le plus grand bien de la fortune de son fondateur, dit Libération. La multinationale a suspendu ses activités dans notre pays au moins jusqu'à lundi après la décision d'un tribunal l'obligeant à évaluer les risques pour ses employés. Et c'est une petite victoire pour les syndicats. Bruno Le Maire, la montée en puissance. C'est le titre cette fois du journal L'Opinion. Le ministre de l'économie est incontournable sur le fond de la crise provoquée par le Covid-19, dit le journal. Devenu un poids lourd du quinquennat, certains le voient déjà à Matignon. Et puis un monde sans tourisme, titre Les Échos. Le tourisme qui pèse 10% du PIB mondial affronte sa plus grave crise. L'Italie s'apprête à mettre en place un accès régulé aux plages cet été. Le secteur des croisières est sinistré. Les professionnels français comptent, eux, sur la clientèle domestique pour une reprise progressive. Tandis que l'Humanité titre également « Vacances et crise sanitaire, la délicate équation ». Voici donc pour ce tour d'horizon rapide des unes de vos journaux que vous retrouverez demain matin dans vos kiosques. Et sur ce, je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute d'Europe 1. Elle sera excellente forcément puisque vous êtes en compagnie d'Olivier Delacroix pour votre libre antenne.